France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Marie-Nicole Lemieux, je suis née au Québec, exactement à Dolbeau, et je suis ce qu'on dirait une artiste lyrique, et puis plus simplement, je suis une chanteuse d'opéra.
Vous avez passé 20 ans, Marie-Nicole Lemieux, et vous
je suis rentrée à 19 ans au conservatoire de Chicoutimi, donc 3 ans, je suis arrivée là à 22 ans. Septembre 97, je fais mon audition pour Marie W.
À Montréal.
Oui, dans la classe, mais on était déjà acceptés, mais ils voulaient quand même nous entendre, et je lui chante « Les nuits d'été ». Je lui chante « Le spectre de la rose ». C'est drôle, hein? Toutes les...
Finalement, la mélodie, vous ne saviez pas ce que c'était la première fois. Et puis ensuite, l'invitation au voyage et puis les nuits d'été, devenu...
Oui, c'était déjà là. C'était le premier cycle après que j'ai montré au complet, c'est les nuits d'été. Et ça porte. Et donc, je chante ça et elle me dit, d'une façon très... Ça, c'est tout à fait du Marie Develvy. Elle dit, on est bien content de vous avoir, même si on ne vous a pas choisi. C'est fantastique, hein? Et là, j'ai gelé. Mais tu sais, à l'époque, si j'avais pas rencontré Rosa, je serais partie en faisant une crise. Mais elle, Marie, c'est ça, elle dit ces choses-là, mais c'était pas du tout mesquin. C'était vrai parce qu'on était imposé, fait qu'elle disait, on vous a pas choisi, mais c'est vraiment le fun de vous, tu sais. J'ai découvert que c'est une femme qui ne connaît pas le faux semblant, qui ne connaît pas la flagornerie. Elle ne connaît pas ça. Elle te donne toujours l'heure juste. Ça fait mal des fois, mais elle le dit jamais d'une manière mesquine, jamais. Mais elle le dit. C'est là que je vous dis qu'il faut être ferré, comme on dit en bon québécois. Je sais pas si vous dites ça ici. Ferré, ça veut dire qu'il faut avoir, c'est comme un cheval, il faut avoir ses quatre fers bien attachés en dessous de ses semelles pour supporter ça. C'est pour ça que je suis contente d'avoir rencontré Rosaire Simard avant, parce qu'il m'a vraiment ancré en moi. Il m'a vraiment ancré dans ce que je désirais vraiment et ce que j'ai à offrir et pourquoi je le fais. Et il me disait toujours, ne t'occupe jamais du fruit de l'action. Puis il me disait toujours, si tu chantes pour être aimé, va-t'en. On chante parce qu'on aime chanter. On chante pour donner. Si tu n'as pas de plaisir à donner dans le don, dans l'acte, va-t'en. Si tu chantes pour recevoir, tu vas être malheureuse toute ta vie. Il a tellement raison! Donc, c'est vrai. Donc, tout ça, c'était des bases tellement importantes, tellement importantes. Donc, j'ai pu, avec Marie, ça nous a pris quand même 6 mois, là, avant de se connaître.
Thank you.
Alors, Marie Davelui, c'est une femme, Marie-Nicole Lemieux, qui est née au milieu des années 30, qui, elle, a beaucoup appris en Allemagne, qui était même professeure d'allemand, je crois, également. Et est-ce qu'elle vous a donné une autre culture,
oui,
venue d'ailleurs? Elle en venait aussi.
En fait, Marie, elle vient d'une famille de musiciens. Son père était professeur de musique et organiste à la ville de Victoriaville. Et donc, elle vient d'une grande famille, une musicienne. Son grand frère il est mort justement l'an passé. Grand organiste, compositeur, Raymond Davelui. Elle a une sœur aussi compositrice. Elle a une sœur aussi contralto. C'est une famille de musiciens. Et elle avait cette voix d'une facilité de concertant. C'était un colorature. Et elle est partie, je pense, à 18 ans, aller étudier avec Maître Grossmann à Vienne. Vous imaginez, tout de suite après la guerre, je pense que c'était en 47. Elle est partie comme ça, toute seule, elle ne parlait pas un mot d'allemand. Elle s'est retrouvée à Salzbourg, je crois, ou à Vienne. En tout cas, je sais qu'elle était dans les deux endroits. Elle s'est retrouvée là-bas toute seule. Elle a appris l'allemand. Elle a été après ça en troupe à Heidelberg pendant plus de 10 ans. Elle a fait tous les grands rôles de colorature qu'on peut faire. Et au bout de 10 ans, le mal du pays, la voix perdue aussi, elle en a trop fait. Donc, elle a perdu sa voix. Elle est rentrée au Québec. Elle a essayé de se reconstruire. Elle a reconstruit sa voix avec un professeur à New York. Elle a fait son chemin. Elle a enseigné au conservatoire de Trois-Rivières. Et elle a enseigné aussi l'allemand parce qu'elle parlait mais parfaitement l'allemand. C'est une femme d'une rigueur incroyable. Moi, avec elle, j'ai appris justement cette rigueur dans le travail. Quand on est arrivé chez Marie, premièrement, il y avait le cours, elle appelait ça la mise en situation. Donc, on avait 2 semaines pour se préparer. On chantait devant tous les autres élèves et il fallait se mettre en situation de récital. C'est-à-dire qu'on ne s'habillait pas n'importe comment. On s'habillait chic, pas en version concert, mais on s'habillait propre. On se préparait, on se maquillait et on préparait et on présentait nos pièces. C'est-à-dire qu'on faisait pas que dire « Bon, je vais chanter Carlo Mio Ben ». Il fallait dire de qui était le compositeur, et qu'on peut le composer, de qui était le compositeur. Si on avait des choses autour du compositeur, les dates de création, le texte, ce que ça veut dire. On n'a jamais chanté chez Marie sans savoir ce qu'on chantait. Ça, c'était une règle ultime. Quand elle te regardait, elle disait « Est-ce que tu sais ce que tu chantes? Quels sont les mots? » Puis elle te regarde avec ses yeux bleus, tu sais. Puis là, tu te sens là. Fait que je peux vous dire que ça m'a pris du temps avant d'aimer cette discipline-là. J'étais très, très, très paresseuse. N'ayons pas peur des mots. J'ai un côté excessivement procrastinateur. Donc, je me préparais, mais tu sais, c'était toujours un peu à la limite. Et puis, à un moment donné, moi, Kimi McLaren, donc dans mes mêmes années, soprano aussi, qui est sortie de son école. Elle nous a pris à part et nous a dit, « Bon, cette année, je vous ai mis 10 points de moins que les autres. Je vous le dis tout de suite. » Puis on a dit, « Pourquoi? » Parce qu'elle dit que le talent que vous avez, c'est pas vrai que je vais vous perdre. Parce qu'elle avait eu aussi plein de grands talents qui étaient passés chez elle et elle disait, « Ils étaient tellement doués que j'ai pas vu qu'ils travaillaient pas. Je m'en suis pas rendu compte. » Et quand ils sont arrivés dans la carrière, parce qu'elle nous disait tout le temps, elle nous préparait pour s'aider tout le temps, quand vous êtes dans la carrière, vous allez avoir besoin de ça. Quand vous êtes dans la carrière, vous n'aurez plus le temps de faire ça. Elle nous le disait, elle avait tellement raison. Et ça, elle nous a dit, je vais vous donner 10 points de moins parce que maintenant, parce que je crois que vous avez des plus grands talents que les autres chanteurs de la classe, je vous le dis à vous, je vais vous demander le double du travail. Vous devez être meilleur tout le temps. Moi, là, ça m'a galvanisée. c'était du renforcement positif. Ça, ça marche chez moi.
Les grands entretiens de Marie-Nicole Lemieux, France Musique.
Puis aussi au conservatoire, bon, on a appris l'italien. C'est ça, on n'a pas parlé de ça, mais à Chicoutimi, j'ai eu un prof d'italien. Signor Luigi Napoli. Napoli qui venait de Cagliari. Il venait de la Sardaigne. Et ça a été un prof. J'ai eu 2 ans d'italien avec lui. Ça a été le meilleur prof d'italien. Il m'a donné une base incroyable. Et quand je suis arrivée, Dieu merci que je l'ai rencontré parce que la professeure à Montréal, elle n'était pas... Non, elle m'a plus confondue. J'étais plus confuse après ces cours que j'ai appris les choses. Mais Seigneur Napoli, il m'a appris vraiment ma base. Ce qui fait que j'ai fait des productions avec d'autres chanteurs italiens, puis à parler. Finalement, mon italien est pas mal. L'allemand, évidemment, il y a Marie qui était là pour nous corriger, surtout sur la prononciation, mais je l'ai appris aussi au Conservatoire de musique de Montréal. Et donc, ces bases-là, c'était très, très important. Et aussi, elle m'avait dit, trouvez-vous une pianiste ou un pianiste. Ou elle nous disait plus galamment, bon, trouvez-vous un chum pianiste. Un petit ami. Si vous pouvez avoir un petit ami ou une petite amie, mais si elle était pianiste, ce serait super. J'ai jamais eu cette... Non. Ça n'a jamais marché. Donc, elle me disait, jumelez-vous avec un jeune pianiste. Parce qu'elle dit, il n'y a rien de pire pour la voix que de chanter sans piano. Parce que la voix n'est jamais seule. La voix, faut que le piano porte la voix. Vous vous fatiguerez moins. Et ça, c'est resté. Je travaille tout mon répertoire avec Denise Panton, qui est ma pianiste répétitrice à Montréal. Mm-hmm. Elle est prof d'harmonie, puis de solfège, puis de dictée au Conservatoire de musique de Montréal. Et c'est là qu'on s'est rencontrés depuis 98. Si vous imaginez cette longue collaboration-là, les choses que j'ai montées avec elle, waouh! Et quand je suis à Bruxelles, c'est avec Marie-Claude Roy, notre amie pianiste aussi, pianiste. Elle est coach vocal et pianiste, donc... J'ai développé cette manière de travailler là et c'est ça qui me... Je continue toujours à travailler comme ça.
Donc,
c'est
vous ne travaillez jamais toute seule, Marie-Nicole Lemieux, en fait? Enfin, ou bien, quoi, rarement, vous travaillez rythmiquement, en parlant?
Oui, voilà. Peut-être? Des fois, je vais regarder le rythme, les récits, je les marquais avec... Tu sais, je vais faire la base au piano parce que je ne joue pas le piano, mais avec mon doigt. Mais rarement sans piano. Parce que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler. On regarde la partition, j'essaie de la chanter. Puis après ça, je m'enregistre. Et là, j'écoute. J'écoute et ça... Ça rentre dans le corps. C'est ma technique.
Alors, Marie-Nicole Lemieux, On parle de chanter, oui. de chanter. Mais bon, vous êtes contralto. Là, je parle de ce janvier 2018. Vous êtes contralto aujourd'hui. Je crois que l'appellation contrôlée, si je puis dire, elle arrive justement à la fin des années 90. C'est une voix qui mûrit lentement. On n'est pas contralto quand on a 18 ou 20 ans.
Non, on le sait pas. On le sait pas qu'on va être contralto. Non, c'est vrai, ça. C'était clair que j'étais pas soprano. Colorature, ça, c'était clair. Rosaire avait parlé de mezzo. Au départ, il m'avait mis soprano dramatique parce que il sentait que j'avais tellement peur des aigus. Là. J'avais peur, j'étais terrorisée des aigus. Ça aussi, je pense, ça vient de mon passage aussi dans ma famille. Vous savez, cette espèce de glorification qu'on a des aigus de ténor. Mais c'est vrai, on ne vit que pour ça. Un chanteur d'un ténor va chanter comme une casserole, mais il va nous faire un bel aigu, puis on va l'encenser. Et le contraire aussi. Un ténor va vous faire un air, mais il vous la chante comme un... C'est comme du parfum. Il va craquer son aigu. Les gens vont crier boue. Et donc, je pense que ça crée une espèce d'attente tellement forte dans mon subconscient. Ça a été très long avant de dénouer. J'y travaille encore. De dénouer la peur de l'aigu. Oh mon Dieu Seigneur. Et donc, j'étais terrorisée. Donc, il avait dit, t'es mes sopranos dramatiques, en fait, pour me forcer à arrêter d'avoir peur. Mais bon. Donc, c'était mezzo. Mais l'appellation officielle est arrivée en 98-99. J'avais demandé une lettre de recommandation à Marie pour un concours. Mais parallèlement à ça, j'écoutais, quand je disais mes heures d'écoute, et j'écoutais Maureen Forrester.
Et j'ai compatriote.
Écouté, voilà, compatriote, contralto. Grande contralto canadienne, qui était l'héritière de Kathleen Ferrier, on peut dire. Et je me disais, tabarnouche, que ça ressemble. Je faisais son répertoire, ça m'allait. J'écoutais aussi beaucoup, beaucoup, c'est Christa Ludwig, qui aussi a une voix très longue. Elle a fait beaucoup de choses de contralto. Une voix longue, un instrument très versatile. C'est vers ça que je suis allée, je pense, plus. Mais vraiment, j'écoutais Maureen Forrester, puis je me disais... Puis je regardais des photos aussi, je me disais, mon Dieu, c'est genre, elle était grande, costaude, blonde. À l'époque, j'étais blonde. Mais j'en parlais pas, puis je me dis quand même, c'est rare. Probablement que je suis pas contralto, mais ça reste comme ça. Et donc, je demande une lettre de référence pour un concours. Et là, Marie, elle dit, est-ce que tu veux que je te lise la lettre que j'ai écrite? Oui, d'accord. Et là, elle dit officiellement, oui, cette jeune femme, c'est un contralto. Et là, j'ai regardé, puis là, elle dit, oui, j'attendais avant de te le dire, mais elle dit, oui, t'es vraiment, ça s'en va vers le contralto, vraiment. Puis elle écrit, elle m'a fait beaucoup penser à notre grande Maureen Forrester. Puis j'y avais dit, on n'avait pas parlé. Donc mon instinct ne se trompait pas.
France Musique, les grands entretiens de Marie-Nicole Lemieux.
Ça ne m'a jamais empêché d'essayer toujours de travailler ma voix pour qu'elle soit libre. Pas m'arrêter à « je suis un contralto, donc je dois chanter sombre », jamais. Ça, j'ai fait toujours, on a fait le choix avec Marie. La lumière, de toute façon, c'est vrai, un soprano colorature, je pense à Sandrine Piau, par exemple, qui est vraiment le type, un soprano léger, sur papier, c'est pas une grande voix, mais quand elle est dans la salle, on ne la perd jamais. Marie Develu étant en colorature, donc c'est toujours des voix très lumineuses, très faciles. Et moi, je n'avais pas une voix facile au départ. C'était vraiment compliqué. J'avais une voix très compliquée, une voix belle. Ça, c'était indéniable. Je la trouve même plus belle à l'époque qu'aujourd'hui, mais ça dépend des goûts. Mais le timbre était vraiment... Quand on écoute mes premiers enregistrements, quand même, c'est faut le dire, le parfum, ça a une personnalité, et c'est surtout que j'étais musicale. Et elle disait, Marie, elle me disait, mais qu'est-ce que je vais faire avec elle? Parce qu'elle dit, je savais que si je te poussais trop, tu pouvais aller trop loin, briser ta voix. Mais elle dit, je voulais pas que tu perdes cette musique que t'avais en toi. Je voulais jamais voulu la perdre. Donc, elle a essayé de me faire travailler en utilisant la musique. C'est-à-dire, tous les exercices, elle me disait tout le temps, non, là, pense pas à faire parfaitement, là. Pense à chanter. Fais-moi de la musique. Puis les exercices étaient toujours très musicales. Et c'est comme ça qu'elle est venue me chercher. Et on avait vraiment décidé d'aller dans la sécurité. C'est-à-dire que la voix s'assombrit avec le temps. C'est ça, là, le contralto, c'est le danger, c'est de vouloir assombrir avant le temps. Et le côté sombre, quand on chante trop, là, tu sais, comme souvent, je m'excuse, mais il y a beaucoup de voix slaves, russes ou tout ça, que je chante russe comme ça, et puis on comprend rien, l'espèce de fait de le ventilateur qu'on appelle. C'est-à-dire que ça, oui, ça donne une couleur sombre. Mais, je m'excuse, mais je sais, ça ne porte pas dans une salle. La lumière de la voix porte. Donc, j'ai toujours été un contralto, mais lumineux. Aus dem Schnee die Blüten küsst, das Schneegewand von der neue Tag begrüßt, dass sie wachsen, dass sie blühen, träumend La lumière aussi faisait aussi que le texte était beaucoup plus audible. Et ça vient de Marie, qui est excessivement, comme je vous dis, d'une rigueur incroyable. Elle, pour elle, la prononciation et la musicalité, c'était deux choses collées. Mais moi aussi, je viens du populaire. Moi, j'ai de la musique à texte. Je viens du chant. Je viens justement de Brel, j'ai chanté Félix Leclerc. Moi, les textes, je lisais de la poésie aussi quand j'étais jeune, on n'en a pas parlé, là. Mais je veux dire, j'étais fan de poésie, j'en ai écrit, je m'extasiais. Et donc, les textes, la prononciation, l'articulation, ça a toujours été excessivement important chez moi aussi. Donc ça, là-dessus, on est toujours bien entendu avec Marie. Et c'est pour ça que j'ai toujours travaillé la voix pour qu'elle soit naturelle et dans la lumière. Ce qui fait que c'est drôle parce que les gens venaient me voir puis me disaient « Vous êtes soprano? » Puis là, je disais « Non. Oui, mais vous avez chanté super aigu. » Puis là, je remontrais la partition que je viens de chanter. Puis c'était grave. En fait, je chantais des « la ». Mais je chantais toujours avec un instrument. Je veux dire, je forçais pas la note. Je faisais pas la dose. Et ça coulait comme si j'étais un soprano. En fait, mais généralement, en fait, j'ai chanté très, très grave. C'est comme ça que qu'on a abordé vraiment le traitement vocal. Je voulais me considérer comme un instrument. J'ai toujours voulu que...
Comme un violoncelle.
Oui, parce que oui, un violoncelle ou un instrument à cordes, c'est le même quand il joue Mozart, quand il se met à jouer Vivaldi. Il faut qu'il soit dans le style, mais c'est le même instrument. Bon, évidemment, il y a encore les puristes qui disent « Oui, moi, j'aime mieux que des boyaux, mais un Stradivarius, un grand musicien peut jouer tous les styles. » Après ça, il va jouer Brahms, mais après ça, il va jouer aussi Mahler. Ça me parle. Tu sais, c'est comme ça que je veux travailler. C'est comme ça que c'est comme ça que je veux aborder les choses. C'est comme ça que je veux aborder la musique. Et Dieu merci, je peux le faire parce que je suis contralto, parce qu'il y a moins de répertoire. Évidemment qu'un soprano mozartien ne peut pas rêver de faire un jour du Wagner. C'est certain, ça. À moins d'avoir une énorme évolution, là. Quoique, il y ait certains rôles, Elisabeth ou Elsa, tu sais, on ne sait jamais. Mais, quand même. Donc, c'est vraiment une chance. Une chance d'avoir cette voix-là. Une chance. Oui. Thank you.
Marie-Nicole Lemieux et Tafel Music, dirigé par Jeanne Lamont dans un Salve Regina de Domenico Scarlatti. C'est ainsi que se referme ce troisième épisode des Grands Entretiens avec Marie-Nicole Lemieux. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Yvan Turc, mixage Éric Boisset, attaché de production Marion Guillemet. Rendez-vous demain dès 13h pour la suite et quand vous voulez sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.